France Musique. Musicopolis. Avril 1749, Londres. Le 27 avril est la date fixée par le roi George II pour des réjouissances qu'il a prévues fastueuses afin de célébrer le traité d'Aix-la-Chapelle, signé quelques mois plus tôt pour mettre un terme à la guerre de succession d'Autriche. Voici des mois qu'on prépare un grandiose feu d'artifice. Pour donner un peu plus de solennité, on a voulu de la musique, bien sûr. Et qui, mieux que le grand George Friedrich Händel, pouvait se charger de la concevoir. Pour se faire entendre en plein air dans le Green Park, tout près de Buckingham House, où doit se tenir le feu d'artifice, les organisateurs ont prévu une instrumentation riche avec ceux qu'on appelle les hauts instruments, qui sonnent haut et clair, hautbois, cor, trompette, timbales. Nous sommes en avril, mais depuis le mois de janvier, le London Magazine a annoncé la composition de l'orchestre. Il sera constitué de 40 trompettes, 20 cors, 16 hautbois, 16 bassons, 8 paires de timbales, 12 tambours, un nombre convenable de flûtes et de fifres, avec 100 canons qui partiront seuls de loin en loin. Une précédente annonce avertissait déjà qu'un orchestre de 100 musiciens devait jouer, avant que le feu d'artifice ne commence, une musique composée par Mr. Händel. On a fait tellement de publicité pour ces feux d'artifice d'avril 1749 que déjà en décembre, des voix s'élevaient pour se plaindre de tout ce battage. En fait, il semble que beaucoup de monde trouve ces festivités guère proportionnées à ce que la couronne de Grande-Bretagne a gagné à Aix-la-Chapelle. En octobre, Horace Walpole, l'écrivain et homme politique, écrit à un ami « La paix est signée entre nous, la France et la Hollande, mais elle n'apporte pas la moindre joie. » Les marchés ne progressent pas et les marchands sont insatisfaits. Bref, il n'y a aucun signe de réjouissance publique. Et pourtant, le gouvernement va donner un magnifique feu d'artifice. En les regardant d'aujourd'hui, les spécialistes assimilent les feux d'artifice royaux d'avril 1749 à une véritable opération de communication. La guerre avait bien trop duré, il fallait trouver un moyen de la faire cesser. Et le compromis trouvé à Aix-la-Chapelle n'a satisfait personne. Pourtant, malgré les récriminations et les pamphlets, le gouvernement britannique veut faire passer l'accord aux yeux du peuple pour un succès du glorieux George II. Händel a déjà souvent composé pour des circonstances politiques. Déjà, avant d'être compositeur officiel du roi, nouvellement arrivé en Angleterre, il avait célébré la paix d'Utrecht, qui marquait la fin de la guerre de succession d'Espagne, par un Te Deum et un Jubilate. En 1713, à 28 ans, débarqué depuis peu en Angleterre, Handel veut montrer qu'il peut composer pour chœur et qu'il n'est pas seulement un spécialiste de l'opéra italien. Il en fait la preuve de magnifique façon avec le Te Deum d'Utrecht et le Jubilate qui l'accompagnent. Une fois compositeur officiel, il aura d'autres occasions de montrer qu'il est capable de rendre en musique la solennité des événements. Par exemple, lors du couronnement du roi George II en 1727, puis en 1743, pour célébrer la grande victoire remportée par les Britanniques à Dettingen. À cet effet, le compositeur a prévu une instrumentation militaire avec trois trompettes et des timbales, et bien sûr des chœurs grandioses. La victoire de Dettingen, dûment célébrée grâce au Te Deum de Handel, victoire remportée le 27 juin 1743 par l'Angleterre, est une étape dans la guerre de succession d'Autriche. Cette guerre qui dure de 1740 à 48, celle-là même qui se terminera par le traité d'Aix-la-Chapelle. L'Angleterre y est impliquée pendant 6 ans. Et même si aucune bataille n'a lieu sur son sol, l'atmosphère de la guerre européenne y est présente. D'ailleurs, pendant ce temps, sur le sol britannique même, a lieu la dernière rébellion jacobite, en 1745-46. Une rébellion qui vise à remettre sur le trône l'héritier de la famille Stuart, remplacé voici 30 ans par la famille de Hanovre, celle de George II. Les troupes jacobites seront même un moment à seulement 200 km de Londres. Et à nouveau, notre Handel se met à l'ouvrage. Après avoir composé moult opéras italiens, il en est à présent à sa période oratorio. Il va composer coup sur coup plusieurs oratorios dits militaires. Le Occasional Oratorio en février 46, Judas Maccabée en avril 47, Joshua et Alexander Ballus en mars 48. Pour agrémenter la soirée, il propose en même temps des concertos qu'il a prévu à due cori, c'est-à-dire à deux ensembles instrumentaux. Cet afflux de compositions militaires dans le catalogue de Händel après la rébellion jacobite de 1745-46 est un des signes que le compositeur, qui vivait en freelance et devait lui-même organiser des saisons de concerts rentables pour pouvoir vivre, avait toujours de bonnes idées pour attirer le public. La saison d'oratorio du carême 45 avait été désastreuse et il lui avait fallu réagir vite pour la saison 46. Dans les allégories militaires des oratorios, avec leurs récits bibliques qui regorgeaient de thèmes de patriotisme et de victoire, la Grande-Bretagne était identifiée comme une nouvelle Jérusalem. Pour ce qui est des concertos que Händel fait entendre pendant les entractes, ils ont eux aussi leurs caractéristiques militaires. D'abord l'utilisation d'instruments de plein air, trompette, cors, hautbois, et ensuite l'écriture en deux ensembles, vraisemblablement placés de chaque côté de la scène, ensembles qui s'opposent, dialoguent, où s'affrontent. Ces nouvelles expériences réalisées par Händel dans les concertos à due cori qu'il fait jouer pendant les entractes de ses oratorios militaires vont certainement lui servir pour la musique des feux d'artifice qu'il compose en 1749. Dans l'ouverture, on entend aussi des oppositions de pupitres d'instruments à vent qu'on peut imaginer comme la figuration musicale de deux belligérants. On peut entendre la succession de courts motifs qui, pour Christopher Hogwood, chef d'orchestre et musicologue britannique, représente d'un côté une fanfare anglaise et de l'autre la cavalerie française. Thank you. Figurer l'opposition de deux armées par l'opposition de deux motifs musicaux peut paraître un peu simpliste. Mais dans son ouverture, Handel a l'ambition de s'adresser à un grand public et il entend bien utiliser des images sonores immédiatement perceptibles par tous. La fête du 27 avril 1749 se prépare. Un magnifique bâtiment, temple dorique en trompe-l'œil, est érigé pour servir de support au feu d'artifice. Pour le construire, on a fait venir le grand architecte florentin Servandoni, qui est aussi peintre décorateur et anciennement directeur des machines de l'Académie royale de musique de Paris. Et c'est Gaetano Ruggeri, membre d'une famille d'artificiers de Bologne, qui prépare la partie pyrotechnique. Pendant ce temps, Handel travaille. Il faut qu'il assure sa saison d'oratorio et qu'il pense déjà à composer les ouvrages de la saison suivante. Il s'agace des demandes des organisateurs. Déjà, il n'a pas été libre de choisir l'instrumentation et on lui a bien fait comprendre que s'il y avait des violons dans l'orchestre, le roi, qui ne les aime pas, ne serait pas content du tout. Et puis, on lui demande de faire une répétition dans les jardins de Vauxhall, alors qu'il aurait voulu garder la musique secrète jusqu'au grand soir. Il est pourtant obligé d'accepter parce que le tenancier des jardins fournira en échange les lanternes, les lampes et 30 hommes pour éclairer les transparences. Cette répétition à Vauxhall va attirer tellement de monde qu'on dit que pendant 3 heures à la sortie, on n'a pas pu circuler sur le London Bridge. La musique que Handel a composée doit être jouée avant les feux d'artifice. Il a prévu ce qu'on appelle une ouverture, c'est-à-dire une suite orchestrale, composée de l'ouverture proprement dite, suivie de quelques morceaux divers. D'abord une bourrée, puis une pièce un peu solennelle et calme, qu'il a intitulée sobrement « La paix ». Thank you. Le grand soir du feu d'artifice, la foule est venue en masse dans le Green Park pour voir le spectacle. On a édicté moult règles de sécurité, parce qu'un feu d'artifice n'est pas chose anodine. La famille royale fait la visite du bâtiment spécialement construit alors qu'il fait encore jour. C'est à ce moment que la musique se fait entendre. Puis, à la nuit, c'est le début des réjouissances. Handel a intitulé le quatrième mouvement de sa suite « La réjouissance », une musique qui trouve, après le mouvement « La paix », une place parfaitement justifiée. Néanmoins, la soirée a failli être moins réjouissante que prévu, puisqu'après le lancement de quelques fusées, un feu s'est déclaré sur un côté du bâtiment, construit en bois, et a failli ruiner la suite des événements. Mais revenons à la musique. Après cette réjouissance qui aurait pu sonner la fin de l'œuvre, Handel a ajouté un menuet. Une danse qui, à l'époque, se met à toutes les sauces et peut prendre n'importe quel caractère. Ici, bien sûr, ce sera un menuet martial, monumental et tout ce qu'il y a de brillant. Menuet de la musique pour les feux d'artifice royaux de George Friedrich Handel, l'ensemble Zefiro, dirigé par Alfredo Bernardini. Tout le programme, la réécoute et le podcast de cette émission sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet « Contact ». Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Benjamin Vignal pour le mixage, Claire Lagarde pour la réalisation, Charlotte Ledruchandès et Françoise Monteil pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.